Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes désolés pour ce petit retard. J'espère que vous avez quand même eu la patience d'attendre parce qu'on va écouter des choses très intéressantes, évidemment, puisqu'il s'agit de galaxies et que je travaille sur les galaxies, donc forcément, ça va être très bien. Alors, avant de vous présenter la conférencière de ce soir, je vous annonce les deux prochaines conférences. Donc, mardi 2 mars, nous aurons Hervé Le Treut, qui est physicien et climatologue. Il est directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Il est membre de l'Académie des sciences, professeur à Sorbonne Université et à l'École Polytechnique. Il travaille donc sur les changements climatiques et sa conférence portera sur les changements climatiques de l'échelle globale à l'échelle régionale. Ensuite, mardi 6 avril, nous aurons Patrick Michel de l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui nous parlera de l'âge d'or de l'exploration spatiale des astéroïdes, ses succès et ses prochains défis. Donc, vous voyez quelque chose de complètement différent. Pour mai, ce n'est pas encore tout à fait sûr. Et pour début juin, je peux déjà vous annoncer que normalement, ce sera Françoise Combes, membre de l'Académie des sciences, professeure au Collège de France et médaille d'or du CNRS, qui nous parlera de galaxies et de trous noirs. Je n'ai pas encore le titre définitif. Voilà. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Laure Melchior, que je connais depuis assez longtemps quand même, qui est maître de conférence à Sorbonne Université, qui fait sa recherche à l'Observatoire de Paris, au laboratoire LERMA, et qui travaille donc sur les galaxies, principalement les galaxies proches, mais pas seulement, et en particulier, elle a fait un certain nombre de travaux sur la galaxie d'Andromède. Et donc aujourd'hui, elle va nous parler de l'évolution des galaxies telles qu'on les observe dans l'univers proche. Merci Anne-Laure. Donc tu peux partager ton écran.
J'y vais. Non, c'est... C'est bon?
C'est bon. Voilà, parfait.
Ok, ben bonsoir, excusez-moi pour le retard, j'ai eu un petit incident de diaporama. Donc je vais vous parler ce soir de l'évolution des galaxies telles qu'on l'observe dans l'univers proche. Donc je vais commencer par vous montrer une figure qui est très connue dans notre communauté, qui est l'évolution du taux de formation stellaire de toutes les étoiles de l'univers réparties par pas de temps. Donc ici, en abscisse, vous avez l'âge de l'univers quand on remonte dans le temps. Donc l'univers, il a 14 milliards d'années. Et on voit comment l'ensemble de la formation d'étoiles varie en fonction du temps. Donc quand on remonte à il y a 10 milliards d'années, l'activité de formation stellaire, visiblement, était très intense et elle a beaucoup décru d'un facteur 100 depuis. Et puis elle était plus faible avant. Donc en fait, tous ces points dans cette courbe, donc qui maintenant en fait sont en bon accord, ce qui n'a pas toujours été le cas. En fait, il y a un grand nombre d'observations qui convergent vers ce résultat, inclut beaucoup de choses sur l'évolution des galaxies. Et donc je vais partir de cette figure donc, qui résume un grand nombre d'observations et l'ensemble de la formation stellaire des galaxies pour aborder un certain nombre de questions que je vais essayer de détailler dans la suite. Donc, tout d'abord, comment cette courbe se relie à des vraies galaxies, parce que là, vous voyez que des points. Comment cela se connecte avec la taille des galaxies? Est-ce que les galaxies sont plutôt petites quand on remonte le temps? Est-ce qu'elles sont plutôt grandes? Est-ce qu'elles sont toutes seules? Est-ce que leur environnement est important? Quel est le rôle du trou noir qui est présent dans leur partie centrale? Et aussi, comment est-ce que toute cette activité de formation stellaire est reliée à leur contenu en gaz, sachant que l'on sait que les étoiles se forment à partir du gaz. Donc, je ne pourrais pas tout détailler, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on travaille. Donc, ces galaxies, vous avez peut-être entendu parler, elles sont reliées à la classification de... Enfin, au début qu'on les a observées, donc au XXe siècle, au début du XXe siècle, vous aviez M. Hubble en 1936 qui les a d'abord classés. Donc en fait, au début, on voyait des petites taches floues sur des plaques photo, donc on les voyait quand même avec des détails. Il y en avait certaines qui avaient des bras spiraux, d'autres qui étaient des formes plus elliptiques. Et donc, en fait, M. Hubble les avait classées. Ça a été revu plus tard, au début des années 60, par De Vaucouleurs, qui a rajouté le type lenticulaire, qui sont des galaxies spirales sans gaz. Donc, je vous ai mis à côté la classification typique qui se fait en biologie, sur l'évolution des espèces. À cette époque, en fait, on avait une zoologie de galaxies, mais on ne savait pas bien ce que c'était, donc le réflexe a été d'essayer de les classer. Et ça a été, en fait, cette classification s'en sert encore assez instructif. Et je vais essayer de m'en servir pour vous montrer comment on travaille. Donc, au début, quand on a eu cette classification, donc les gens ont cherché à comprendre comment les galaxies évoluaient. Et donc, dans les années 80-90, on pensait que l'évolution des galaxies allait être sur cette figure de gauche vers la droite. C'est-à-dire que les galaxies elliptiques se formaient d'abord comme des petites boules. Et puis ensuite, on pensait qu'elles interagissaient entre elles et par friction dynamique, généraient des bras spiraux, en fait, et on pensait que les spirales provenaient de la fusion de galaxies elliptiques. Et bien aujourd'hui, donc nous sommes au XXIe siècle, et on a beaucoup travaillé depuis, mais en fait on s'est aperçu que l'évolution, eh ben, elle va pas de gauche à droite, alors que même les gens arrivaient à les simuler pour aller de gauche à droite, en fait ça va plutôt de droite à gauche. Et donc je vais vous montrer comment... on peut itérer entre des observations et des simulations pour essayer de comprendre l'univers dans lequel on est. Donc, je vais en profiter, puisque je suis partie au XXe siècle, de remonter au XVIIe siècle pour vous montrer ces jolies gravures historiques. Vous avez à gauche donc, ce qu'on appelle une mise en abîme, où vous avez le roi Louis XIV avec les académiciens astronomes, dans le nouvel observatoire de Paris, avec une mise en abîme où vous voyez l'observatoire en construction derrière. Donc, j'utilise mon allusion à la biologie pour le fait que donc, l'observatoire de Paris a été créé 27 ans après le Muséum d'histoire naturelle, et donc à l'époque, les scientifiques mettaient, voyez, des cadavres à côté d'instruments astronomiques. Et donc, sur la droite, vous avez donc cette gravure de l'Observatoire de Paris où vous voyez l'observatoire avec des observateurs donc, qui utilisaient cette tour qui s'appelait la tour de Marly. Et vous voyez que l'Observatoire de Paris, à cette époque, était au milieu des champs. Donc aujourd'hui, c'est devenu le 14e arrondissement. Donc c'est un environnement très urbain. Et donc, ce n'est plus utilisé pour des observations professionnelles. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais revenir au XXIe siècle et je vais vous montrer une simulation cosmologique de Florent Renaud, qui est un chercheur français qui habite en Suède, qui a fait cette superbe simulation numérique. Donc, vous voyez en bas, vous avez le redshift et l'âge. Donc, on regarde vers l'arrière. Donc, c'était il y a à peu près 14 000 ans. Donc, on est parti d'un morceau d'univers primordial. Et donc, on va regarder comment ça évolue dans le temps. Donc, vous avez un code de couleur. En rouge, c'est la matière noire, donc qui domine le potentiel. En bleu, vous avez le gaz. En blanc, les petites zones lumineuses, hein, ce sont là où se forment les étoiles. Donc, tous les petits grumeaux que vous voyez se former, en fait, ce sont des bébés galaxies. Et vous voyez que ça s'agglutine selon des filaments. Vous avez des petits grumeaux. Vous voyez qui commencent à fusionner. Donc ces petits grumeaux, ben, c'est des galaxies. Et donc vous voyez, on a passé 12 milliards d'années. Donc vous voyez que ces galaxies, en fait, fusionnent. Et là, on pense qu'on a un précurseur typique de la Voie lactée, notre galaxie. Et vous voyez donc les galaxies donc, lui tombent dessus. Vous avez beaucoup d'effets, vous voyez qui se passe. Vous avez aussi en vert, c'est ce qu'on appelle les métaux, ce qui vous montre le gaz qui est rejeté par les galaxies. Et vous voyez aussi en bleu que le gaz il tombe sur les galaxies, mais il est aussi expulsé. Et là, vous avez une grosse galaxie qui va tomber sur la Voie lactée. C'est ce qu'on appelle, quand elles ont des masses similaires, ce sont des fusions majeures. Donc, ça impacte beaucoup la morphologie. Et vous voyez que ça n'arrête pas. Il y a plein de petites galaxies qui tombent et qu'elle finit donc par devenir une galaxie spirale hein, qui ressemble un peu à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de voir sur cette simulation, c'est que vous voyez le gaz qui s'étend bien au-delà de la partie visible où il y a les étoiles, donc la partie lumineuse. Vous voyez que la partie verte, hein, c'est le gaz expulsé, va très très loin. Et en bleu, vous avez aussi tout le gaz qui s'étend bien au-delà de la partie visible où on voit les étoiles. Donc ça ressemble à des nuages à très très grande échelle, sachant qu'une galaxie, c'est typiquement 7000 années-lumière. Donc en fait, dans ces simulations, vous avez essentiellement des particules qui interagissent sous l'action de la gravité et il y a des prescriptions pour la formation stellaire. Donc voilà, vous voyez, en une dizaine de milliards d'années, on a obtenu une galaxie qui ressemble à notre galaxie. Donc, hop, hop, hop. Donc ça, c'est les simulations. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça se compare aux observations. Donc ça, c'est... Donc ça correspond à des données. Donc c'est une carte où vous avez la Voie lactée au milieu. Donc vous avez le disque de notre galaxie avec son bulbe. Et tout autour, c'est le ciel tel qu'on l'observe. Et tous les points que vous voyez sont des galaxies dans l'univers assez proche. Donc jusqu'à 5 milliards d'années-lumière. Et la couleur, ça correspond à leur distance. Donc les petits points bleus, c'est les galaxies qui sont proches de nous. Les petits points rouges sont les galaxies qui sont plus loin de nous. Donc ce que l'on voit ici déjà, mais je vais vous le montrer mieux, c'est qu'en fait, on a une structure filamentaire, donc qui ressemble à ce qu'on a vu dans les simulations où vous voyez beaucoup de filaments. Donc je vais passer à la diapositive suivante, qui est une nouvelle animation, qui va vous montrer donc cette galaxie, enfin ce champ, mais à différents pas de temps. Donc ici, vous avez le décalage vers le rouge, on remonte dans le temps. Et vous voyez à chaque fois, donc c'est une couleur différente, et vous voyez tous ces petits points qui se regroupent dans des amas. Et donc vous avez des structures différentes à chaque pas de temps. Donc vous voyez, donc là ça va passer au jaune. Donc vous êtes de plus en plus loin, plus vous allez loin, à chaque fois vous avez des structures différentes. Donc c'est une autre façon à nous de remonter dans le temps. Donc ce qui est important de voir, c'est que à chaque pas de temps, on voit des galaxies plus jeunes, mais ce n'est pas les mêmes galaxies. C'est-à-dire qu'on voit des galaxies qui nous ont envoyé leurs photons. Et donc on les détecte comme à l'époque où elles ont envoyé leurs photons. Donc en fait, quand on remonte, on dit qu'on remonte dans le temps, on voit des galaxies qui sont plus jeunes, mais ce n'est pas les mêmes galaxies que celles qu'on voit aujourd'hui. Et ça nous permet donc d'extrapoler sur comment c'était avant.
J'ai quelques questions, Anne-Laure, tu t'arrêteras et tu me diras quand tu voudras que je te les pose. Et
Bon, vas-y, ouais, c'est un bon moment, je pense.
je ne peux pas toutes les poser. Alors, il y a une première question. Notre galaxie est-elle en collision avec une autre? Et si oui, est-ce que les trous noirs ont fusionné?
Ah bah ça, je vais en parler plus tard.
D'accord. Alors, on
Donc, je me
attend.
réserve.
Voilà, réservons. Deuxième question. La structure qu'on observe est similaire à des neurones. Donc, est-ce que ça veut dire que les lois sont les mêmes à toutes les échelles?
Les lois sont les mêmes à toutes les échelles. En fait, c'est des filaments et effectivement, tout est fractal, plus ou moins. Donc, effectivement, on les voit à plus ou moins grande échelle. Après, sur les structures de galaxies, comme c'est des, on va dire, c'est des grosses particules, les galaxies, je dirais pas que c'est exactement pareil à toutes les échelles. Parce que c'est plus compliqué. Par contre, quand on regarde dans une galaxie le milieu interstellaire, lui, effectivement, on observe que c'est la même chose à toutes les échelles. Là, en fait, il y a quand même une évolution parce que dans la simulation, on a vu qu'on est parti d'un univers qui était relativement homogène et que les structures se sont formées. Donc, en fait, il y a de plus en plus de structures quand on revient vers nous. Après, dans les observations que je vous ai montrées, c'est dans l'univers relativement proche, donc effectivement, on voit tout le temps les mêmes échelles.
Si. Je propose que tu continues et puis il y aura d'autres questions après.
Ok, ici, alors je vais enchaîner, voilà. Alors là, j'ai perdu ce que les petits dés que je vous avais un petit peu préparé. Donc ça, c'est une figure d'un article de recherche, donc je vais vous le commenter. Et donc ça, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu que les galaxies, ce qu'on connaît sur les galaxies. Et ça vous montre alors plein de choses. Donc vous avez plusieurs vignettes qui sont des graphiques pour différents pas de temps. Donc on va commencer par le premier. Et vous voyez que vous avez des petits points bleus, des petits points rouges. Donc les petits points bleus correspondent à des galaxies bleues. Et les galaxies bleues sont des galaxies, typiquement les spirales de la classification de Hubble, qui forment des étoiles. Et les galaxies rouges sont plutôt les galaxies vieilles, qui sont des elliptiques dans la classification de Hubble et qui ne forment plus d'étoiles. Donc ce que j'ai représenté ici, c'est le rayon des galaxies en fonction de leur masse stellaire. Et donc ce qu'on voit, donc là vous avez deux droites qui vous montrent donc la première vignette, on va dire que c'est l'univers proche. Et donc vous voyez que elles ont c'est des ajustements sur les galaxies rouges et sur les galaxies bleues. Donc ce qu'on peut voir, donc en abscisse, on a la masse des galaxies. Donc la Voie lactée, elle a une masse stellaire typiquement de 10 puissance 10, donc on est par là, plutôt dans les bleus. Et donc on voit qu'à une masse donnée, les galaxies bleues sont plus grandes que les galaxies rouges. Donc c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément, puisque les galaxies, pour une masse donnée, on s'attendait à ce que les galaxies. Enfin, y avait pas de... on n'avait pas du tout anticipé que les galaxies rouges seraient plus petites que les galaxies bleues. Et de plus, quand on remonte dans le temps, donc vous voyez, donc les points sont un peu différents, et vous voyez que les corrélations, les courbes les deux droites là que je vous ai montrées, en fait, descendent. Et donc, pour une même masse, les galaxies, quand on remonte dans le temps, étaient plus petites qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la corrélation qu'on voit entre la masse et la taille des galaxies. Donc il y a aussi cette figure que j'aime bien. Alors c'est aussi une figure d'un article de revue, donc qui ressemble un peu à un crabe, mais c'est basé sur des données. Bon, ça date des données de 2006, donc c'est un peu ancien, mais ça a le mérite de bien montrer ce qui se passe. Donc en fait, vous avez toujours pareil, j'ai mis les galaxies bleues à droite et les galaxies rouges à gauche. Et le temps évolue donc sur les galaxies bleues de la droite, enfin du haut vers le bas, enfin comme ça. Et donc ce que ça représente, c'est le nombre de galaxies en fonction de la masse stellaire. Donc ce qu'on voit à droite, c'est que les galaxies bleues, donc vers 20 milliards d'années, elles étaient ici. Et si vous regardez donc plus près, 0, z égale 0,5, c'est vers 10 milliards d'années, donc un facteur 2 en temps, donc on passe de là à là. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de galaxies, et donc globalement, elles vont être plus petites. Et dans le même temps, ce qui se passe, c'est qu'à droite, vous avez les galaxies rouges, donc qui sont les galaxies elliptiques. Et alors que là, le temps, il va vers le bas, là, les galaxies, elles sont au contraire de plus en plus grosses. Donc, ce qu'on observe, c'est que les galaxies bleues, quand on les regarde évoluer dans le temps, en fait, elles sont de plus en plus petites, alors que les galaxies rouges, elles deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus massives. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, bon, ça, à peu près, on le comprend, ça veut dire que les petites galaxies, en fait, ce n'est pas les mêmes galaxies qu'on voit, les petites. Les galaxies bleues, en fait, elles fusionnent et elles vont devenir des galaxies rouges. Donc, en fait, on change de catégorie. Donc, ça, bon, ça c'est un des grands résultats du début du XXIe siècle. Et donc, ici, je peux aussi vous montrer, donc c'est un peu la même chose. En fait, ce comportement galaxie rouge, galaxie bleue, c'est ce qu'on appelle la dichotomie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de relations où quand on regarde les galaxies, en fait, il y a deux groupes. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis un exemple d'histogramme de couleurs de galaxies. Donc là, vous avez les galaxies rouges. Ici, vous avez les galaxies rouges. Là, vous avez les galaxies bleues. Et puis, comme on discutera, vous avez des galaxies un petit peu entre deux. Donc ici, pareil, vous avez la couleur de la galaxie en fonction de sa masse stellaire. Donc la Voie lactée, elle est typiquement par là. Et donc ici, vous avez les galaxies bleues, ce sont les galaxies qui forment des étoiles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séquence principale. Là, vous avez les galaxies rouges, donc qui sont très bleues, donc il y a une faible activité de formation stellaire. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a ce qu'on appelle une vallée verte entre les deux. Donc c'est un peu le trou qu'on a entre les deux pics où en fait il y a quelques galaxies ici. Et donc cette vallée verte, en fait, on se pose des questions dessus parce qu'en fait on ne comprend pas comment, parce qu'on a beaucoup d'exemples contre-exemples, comment les galaxies bleues deviennent rouges et est-ce que des galaxies rouges redeviennent bleues? Comment ça évolue dans le temps? Est-ce qu'il y a des galaxies, elles ont plus de gaz, elles deviennent toutes rouges? Et puis est-ce qu'elles récupèrent du gaz un peu plus et se rallument? En fait, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Donc ici, les chercheurs ont séparé donc, ce diagramme qui est assez standard, couleur en fonction de la masse. Ils ont fait le même pour les galaxies elliptiques. Donc vous voyez qu'elles sont principalement sur la séquence rouge. Et pour les galaxies de type spirale, les galaxies bleues, qui sont essentiellement là. Et ils ont été surpris d'observer qu'en fait, vous avez des galaxies spirales qui sont quasiment rouges et des galaxies elliptiques qui sont quasiment bleues. Donc en fait, il y a effectivement des galaxies qui sont en transition. Donc concrètement, je peux vous montrer cette jolie figure qui vient de l'Atlas. Qui a été réalisé avec le satellite Galex dans l'ultraviolet. Donc, il vous montre cette dichotomie des galaxies, où donc sur la gauche, vous avez des galaxies bleues. Donc, vous voyez que vous avez une certaine variabilité de type morphologique. Donc, en général, vous avez un petit point jaune au milieu qui correspond au bulbe, et puis vous avez beaucoup de bras spiraux. Qui forment des étoiles. Et quand vous allez plus sur la droite, Alors, nous, on les voit rouges, vous devez les voir jaunes, mais bon, ça dépend beaucoup du code de couleur qu'on utilise. Donc là, vous avez par contre des galaxies, vous voyez, qui sont beaucoup plus lisses, pour lesquelles on voit de moins en moins de bras spiraux. Donc, en fait, ce sont des étoiles plutôt vieilles qui s'accumulent dans ces galaxies. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler un peu plus de ma recherche. Donc je vais vous montrer. Donc ça, c'est une image qui a été prise avec un télescope de 8 mètres, enfin, nouvelle génération de grands télescopes de la classe des 10 mètres. Et donc ça a un champ très profond. Qui descend à magnitude 26 et qui permet de détecter des galaxies jusqu'à des distances de 50 milliards d'années-lumière, donc qui vont très très profond. Et donc sur ce champ que vous avez à l'écran, c'est pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, vous avez 7500 galaxies. Donc évidemment, vous voyez des galaxies, vous les voyez bien. Donc ça, c'est les galaxies proches, vous voyez, qui sont avec des bras spiraux, un peu de structure. Mais en fait, vous en voyez comme ça, pas 7500. En fait, toutes l'image est tellement profonde que tous les petits points que vous voyez dans l'image, en fait, sont des galaxies. Et en fait, ces galaxies-là, donc on arrive à avoir leurs propriétés, notamment à l'étude avec l'étude de leur spectre qui permet d'avoir une information qu'on ne peut pas avoir spatialement. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à les résoudre. Par contre, spectralement, on a des informations cinématiques qui nous permettent d'avoir des informations. Donc moi, je m'intéresse plutôt à des galaxies proches. Je vais vous montrer un petit peu. Ce qui nous intéresse, et donc je vais essayer de vous décrire un petit peu, vous donner un aperçu de ce qui se passe pour les fusions de galaxies et comment on essaye de les observer. Donc vous savez probablement que au centre des galaxies, il y a des trous noirs, donc on a observé, donc surtout par leur masse. À chaque fois que dans toutes les galaxies, dès qu'il y a un bulbe, donc une partie un peu sphérique avec des étoiles vieilles, en fait, on arrive à détecter qu'il y a un trou noir. Donc ce trou noir, donc là, vous avez sa masse, il fait entre quelques millions de masses solaires jusqu'à plus de 10 milliards de masses solaires. Et c'est tout petit, c'est vraiment au cœur de la galaxie. Donc en fait, pour la plupart des galaxies, on ne résout pas. Mais par contre, on observe sur les galaxies proches que c'est corrélé à la masse du bulbe, avec une assez bonne corrélation. Et dans quelques galaxies, en fait, ils sont actifs. Donc là, en fait, un trou noir, ça n'émet pas de lumière propre, mais quand il y a du gaz ou des étoiles qui tombent dessus, en fait, il émet du rayonnement. À ce moment-là, on estime qu'ils sont très actifs pendant quelques centaines de millions d'années. Donc en fait, c'est très court sur l'échelle de temps des galaxies, parce que la simulation que je vous ai montrée, l'univers, on pense qu'il a 14 milliards d'années. Mais quand elles sont actives, donc là, c'est une image en fausse couleur d'un prototype. Alors, ça a l'air un peu irréel, mais c'est une combinaison d'images prises à plusieurs longueurs d'onde. Donc, en vert, vous avez une image optique. Donc, c'est typiquement une galaxie elliptique. Et donc, je vous ai mis cette image pour vous montrer les ordres de grandeur. Donc là, vous avez un jet radio qui vient du trou noir de cette galaxie. Donc vous voyez que c'est énorme par rapport à la taille de la galaxie. Et par rapport à la problématique dont je vous ai parlé au début, là, par rapport à la formation d'étoiles, on se pose la question sur est-ce que ce n'est pas ces trous noirs qui vont expulser l'ensemble du gaz qui était dans les parties centrales des galaxies et qui vont les éteindre. Ce qu'on a vu aussi dans la simulation que je vous ai montrée au début, où on pense que le gaz il peut être expulsé assez loin des galaxies. Et donc, on soupçonne, on n'est pas complètement... On ne l'a pas montré sur de très très grands échantillons, mais on a un certain nombre d'observations qui suggèrent que en fait, le trou noir doit avoir une influence dans l'évolution des galaxies. Alors en bas, je vous ai montré une simulation. Donc vous voyez la densité du gaz dans un disque. Et là, vous avez l'effet du trou noir, donc qui est au centre de la galaxie, sur le gaz. Donc vous voyez sur une échelle de 1 milliard d'années, 1 milliard et demi d'années. Donc en fait, vous partez avec un disque de gaz. Et quand le trou noir émet un jet, et ben en fait, vous voyez qu'il peut expulser tout le gaz qui est dans la partie centrale. Donc après, le gaz, on sait qu'il retombe sur la galaxie, mais on n'a pas forcément tous les détails de comment cela impacte globalement l'évolution des galaxies. Donc voilà, donc la question qu'on a sur les trous noirs, c'est que donc on sait que il y a des trous noirs au sein de chaque galaxie, et donc dans les fusions, on s'attend à trouver des galaxies avec plusieurs trous noirs au centre, en particulier des galaxies qui ont fusionné récemment. Donc par exemple, je vais vous montrer des exemples de fusion. Donc ça, c'est des galaxies qui ont été prises avec le télescope de Hubble. Donc celles-là, si elles étaient très loin, je ne sais pas si on verrait qu'elles sont perturbées. Donc là, par exemple, vous avez une galaxie qui a été accrétée sur le petit axe de cette galaxie qui a l'air un peu aplatie. Donc ça fait ce qu'on appelle un anneau polaire. Donc là, il y avait deux galaxies. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des trous noirs? Donc il y a quelques cas, peut-être sur les doigts d'une ou deux mains, où en fait on a des galaxies pour lesquelles on détecte deux, trois noyaux. Et ici, vous en avez une, vous voyez, qui a subi une interaction gravitationnelle, vous voyez qu'il y a un très long bras de marée qui l'a déformé. Et celle-là aussi, vous voyez que visiblement, ces deux galaxies ont interagi et vous voyez vous avez des très grands barres de marée. Vous en avez qui sont. Donc, ça, c'est des étapes de fusion assez avancées, où quasiment là, par exemple, au milieu, les galaxies n'en font plus qu'une, même si elle est un petit peu perturbée. Et puis, vous avez différentes étapes de fusion. Donc vous avez des galaxies assez extraordinaires. Donc là, par exemple, vous avez ces deux galaxies donc, qui sont en train de se rentrer dedans. Ici, vous avez aussi deux disques perturbés. Vous voyez, celle-là est très asymétrique, probablement due à l'interaction avec la galaxie en dessous. Ça, c'est une galaxie qui est très connue, qui s'appelle la galaxie des antennes. Donc vous voyez qu'il y a deux bras de marée et que les deux galaxies donc, ont deux têtes. Et donc là, vous avez l'image avec le HST. Et celle-là aussi, c'est des galaxies en anneaux qui ont dû se traverser. Donc vous voyez que celle-là, donc, elle a perdu son bulbe. Tandis que celle-là, donc, elle réagit à cette interaction donc, avec une structure en anneaux. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on arrive à observer dans l'univers proche. Quand on est dans l'univers plus lointain, Souvent, on n'arrive pas à repérer les perturbations morphologiques, même si on a des algorithmes assez sophistiqués, mais on s'attend à ce que dans le passé, ben, il va y avoir plus de fusions qu'aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous parler de la galaxie sur laquelle je travaille depuis de nombreuses années.
Est-ce que je peux t'interrompre une minute parce qu'il y a des questions là avant qu'on passe à
Oui.
Andromède? Alors, d'abord, comment est-ce que les galaxies peuvent fusionner étant donné qu'il y a l'expansion de l'univers? Les galaxies s'éloignent les unes des autres, donc comment est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes de fusion?
Parce qu'en fait, dans ce qu'on a vu dans la simulation du début, qui tient compte de l'expansion, etc., c'est qu'en fait, il y a des puits de potentiel dans lesquels tombe le gaz et les galaxies. Et les galaxies, en fait, sont reliées gravitationnellement dans les filaments. Et donc, effectivement, il faut qu'elles soient liées. Toutes les galaxies ne fusionnent pas. Il y a un certain nombre de galaxies qui sont isolées dans la mesure où on ne détecte pas les voisins. Il y a peut-être 70% de galaxies qui sont isolées ou dans des groupes faibles. Et aussi, si les galaxies sont isolées, on se demande aussi comment elles ont fait pour accréter leur gaz. Donc en fait, on pense quand même qu'elles ont accrété leur gaz dans les filaments.
Alors, quelqu'un demande aussi si l'expansion de l'univers peut être plus rapide que la vitesse de la lumière.
Alors ça, je ne suis pas compétente, donc je laisserai cette question à des intervenants qui sont beaucoup plus spécialisés dessus que moi.
Ensuite, tu nous as parlé de trous noirs. Donc, comment est-ce qu'on mesure, on estime la masse du trou noir dans une galaxie?
Alors, la méthode que je connais le mieux, c'est sur les galaxies proches. En fait, on fait des images à haute résolution de ce qu'il y a autour du trou noir. En général, c'est plutôt des étoiles, mais pour des galaxies, en fonction des galaxies, ça peut être le gaz. Et on mesure la vitesse autour du trou noir. Parce que là, on va avoir une vitesse quand on est dans ce qui s'appelle la sphère d'influence du trou noir. La matière n'est pas encore tombée dans le trou noir, mais les corps voient le potentiel du trou noir et donc sa masse. Donc en fait, on peut faire une courbe de rotation de la matière qui est juste autour du trou noir. Et à partir de ça, on a des vitesses, et à partir de ces vitesses, on peut estimer la masse relativement précisément. Donc c'est la figure que je montre ici. Donc tout ça, c'est des galaxies proches pour lesquelles on peut estimer la masse. Après, pour les galaxies plus lointaines, c'est des relations empiriques, hein, qui sont plus ou moins calibrées sur les galaxies proches. On fait avec ce qu'on a. C'est moins, donc on va utiliser des flux, des couleurs pour essayer d'estimer, mais c'est pas des mesures, c'est moins direct.
Merci. Bon, je te laisse continuer. Il y aurait trop de questions de toute façon, donc il vaut mieux que tu continues maintenant qu'on parle un peu d'Andromède.
Ok, alors on se rapproche. Donc Andromède, elle est donc en fait c'est une grosse galaxie. Alors en fonction des auteurs, tout le monde n'est pas d'accord. Ça fluctue un peu dans le temps, mais la tendance est de dire qu'elle est 2 fois plus massive que la Voie lactée. Donc elle est typiquement sur la Vallée verte, mais c'est une galaxie à disque. Elle a un bulbe encore comme une spirale de type plutôt B sur la classification de Hubble. Et par contre, elle forme très peu d'étoiles et en fait, elle est très perturbée parce que ici, vous avez les bandes de poussière qu'on détecte aussi très bien dans l'infrarouge. Et ces bandes de poussière, en fait, si vous voyez, elles forment en fait un espèce d'anneau. Alors, ça a été longtemps discuté, est-ce que c'est des bras spiraux déformés par l'inclinaison, parce qu'elle est inclinée à 77 degrés. Mais en fait, quand on regarde la poussière en émission, En fait, on voit très clairement qu'il y a un disque à disons, 3 000 années-lumière, et puis un disque à 3 000, donc à 0,3, à 300 années-lumière. Donc ici, en fait, il y a un petit disque, donc un petit anneau ici à l'intérieur sur lequel je travaille. Et cette structure en anneau, on pense qu'elle a subi une collision frontale avec la petite galaxie que vous avez là, qui s'appelle Messier 32, ou une galaxie comme ça, qui expliquerait cette structure en anneau. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'il n'y a quasiment plus de formation stellaire au centre, donc elle est quasiment complètement éteinte au centre. Et puis aussi, elle a vécu beaucoup d'interactions. On voit que, elle n'est pas symétrique. En fait, depuis longtemps, on sait qu'il y a ce qui s'appelle un warp, elle est un peu tordue là, sur le bord. On voit aussi qu'elle n'est pas symétrique par rapport au centre, si vous regardez un petit peu. Voilà, et donc ici, vous avez. Non, je suis désolée, j'ai perdu les axes. Donc ici, vous avez l'âge en fonction du temps. Donc aujourd'hui, on est ici. Et ici, c'est le taux de formation d'étoiles de cette galaxie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, elle forme quasiment plus d'étoiles, mais qu'il y a eu des pics dans le passé qu'on arrive à corréler avec des fusions avec des galaxies qui seraient tombées dessus. Donc, je vais vous montrer un autre exemple de collision frontale où c'est plus clair cette morphologie en anneau. Donc le principe, c'est le principe de la goutte d'eau, parce que je vous ai montré, donc vous voyez le bolide, en fait, c'était une petite galaxie, bon, qui était plus grosse avant la collision, mais c'était une petite boule comme ça. Donc une petite boule comme ça traverse le disque assez facilement. Donc c'est typiquement une goutte d'eau dans une grosse flaque. Et vous avez un autre exemple qui est célèbre, qui est la galaxie du Chariot. Donc c'est une galaxie qui a aussi eu une collision frontale et qui a aussi un anneau à l'intérieur et un très grand anneau à l'extérieur. Donc elle ne ressemble pas vraiment, parce que la galaxie initiale était probablement très différente de M31. Mais là, par exemple, vous avez un exemple de simulation qui vous montre comment vous pouvez partir d'une galaxie spirale. Alors là, vous avez cette galaxie dite du Chariot vue de face. Et donc, il y a un petit projectile qui tombe dedans. Donc, on ne voit pas. Bon, ce petit projectile, c'est une galaxie. Et vous voyez comment ça évolue en fonction du temps. Et vous voyez la structure en anneaux qui se forme. Et donc, qui arrive à reproduire assez bien. La structure que l'on voit. Donc, c'est jamais exactement pareil, parce que l'ajustement des conditions initiales sont très complexes, mais ça vous montre un petit peu comment ça se passe dans le cas d'une collision frontale. Voilà, donc M31, elle a probablement eu dans son passé récent, donc dans les derniers 200 millions d'années, une collision de ce type. Alors cette galaxie aussi, elle est connue parce qu'en fait, elle a eu beaucoup probablement de collisions dans le passé et on arrive à le détecter. Alors, ces images sont beaucoup moins belles que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la partie que vous avez vue tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la partie visible, c'est ce qui est typiquement dans les contours rouges, là. Ici, on a un petit peu écrasé la dynamique. Donc, on va peut-être commencer avec la partie de droite. Donc, la partie visible, c'est la partie qui est noire, qui est complètement écrasée en dynamique. Et on a essayé de mettre en évidence tout ce qu'il y a autour. Donc, en fait, ça, c'est possible parce que c'est une galaxie qui est très, très proche. Et donc, là, ce qu'on a détecté, c'est des grands survets. Donc, qui ont couvert plusieurs, enfin quasiment une dizaine de degrés sur le ciel, donc c'est un challenge observationnel. et qui a détecté toutes les étoiles autour de cette galaxie. Et donc, ces auteurs ont montré que ces étoiles n'étaient pas distribuées de façon homogène, mais étaient alignées dans des structures. Et donc, vous voyez des sortes de filaments tout autour de cette galaxie. Donc, en anglais, en bon franglais, ça a été appelé des streams. Et tout ça, c'est des étoiles rouges qu'il est possible de détecter. Et là, vous avez sur cette image-là le gaz neutre qui est détecté également, qui correspond plus ou moins à ces structures qu'on voit dans les étoiles. Donc, c'est probablement dû à des reliques d'anciennes galaxies qui se sont fait absorber par Andromède. Donc, ici, vous avez le satellite d'Andromède qui est Messier 33. Donc, il y a aussi, on pense, des débris. Et donc, il y a aussi un satellite de Messier 32 et qui, probablement à terme, probable qu'elle fusionne avec M31. Donc, je vais finir avec une simulation. Donc, vous avez peut-être entendu parler qu'en fait, notamment avec le satellite Gaïa, on est capable maintenant de mesurer la vitesse relative entre la galaxie d'Andromède et la Voie lactée. Et donc, ce qu'on voit, c'est que elles se rapprochent l'une de l'autre. Et donc, on pense que d'ici 5 à 6 milliards d'années, elles vont fusionner. Donc, je vous ai préparé donc. Cette simulation vient de Florent Renaud, le même que celui qui a fait la superbe simulation du début. Donc là, on va commencer aujourd'hui, et là, on extrapole un petit peu sur, en prenant les conditions initiales d'aujourd'hui, comment le simulateur envisage l'évolution de ces galaxies. Donc ici, vous avez cette simulation, donc là c'est typiquement une galaxie comme la Voie lactée qui va être mise en perspective. Et donc on dézoome, et là vous voyez apparaître donc Andromède avec Messier 33, la petite galaxie satellite qu'on avait vue tout à l'heure. Et donc vous voyez qu'elles vont fusionner. Donc ce sont deux disques qui sont représentés. Et donc, quand ils rentrent dans leur champ gravitationnel, au bout d'un moment, la fusion s'accélère. Donc, vous voyez que vous avez des bras de marée, de la matière qui part loin de ces galaxies. Et puis, finalement, tout fusionne. Et vous voyez, ça devient rouge. En fait, il y a dû avoir une. Durant l'interaction, il y a une flambée de formation d'étoiles et ensuite le gaz est consommé. Et vous voyez qu'on finit par une galaxie de type elliptique rouge. Et voilà, et donc dans ce cas-là, Messier 33 n'a pas encore fusionné. Donc, voilà, donc c'est pas très dangereux une fusion de galaxies comme ça. Pour une étoile, parce que les étoiles ne collisionnent pas, parce que la distance entre les étoiles sont tellement grande qu'en fait les étoiles ne voient pas la collision. Par contre, dans 5-6 milliards d'années, en fait le Soleil sera devenu une géante rouge et donc il y aura plus de Terre depuis longtemps. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie.
Merci beaucoup Anne-Laure. Donc encore quelques petites questions. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement dans une fusion de galaxies au niveau des trous noirs centraux des galaxies? Est-ce que les trous noirs fusionnent aussi?
Ben, c'est une excellente question parce que on aimerait bien savoir y répondre. En fait, ce qu'on arrive, donc on cherche des galaxies qui ont deux noyaux. Et donc, on en connaît. Par exemple, il y en a une NGC 6240, qui est clairement une fusion. Et là-dedans, on a trouvé trois noyaux. Sauf qu'en fait, nous, on voit qu'un pas de temps. Donc, on voit des pas de temps où il y a deux noyaux et il y a des pas de temps où il y a un noyau. Donc, quand elles fusionnent, c'est très rare. Et je pense que c'est dans la nouvelle génération d'instruments qu'on pourra peut-être les détecter. Pour le moment, je ne crois pas qu'on sache les détecter. Mais en tout cas, ce qu'on cherche, c'est d'avoir de la statistique avec des galaxies avec deux noyaux. Est-ce qu'on a des galaxies normales où il reste deux noyaux, par exemple? Ça, on ne sait pas. C'est une des questions. Parce que quand on a une galaxie qui ressemble à une fusion, qui est perturbée, on n'est pas très surpris de voir qu'il y a plusieurs noyaux ou qu'il y a deux noyaux. Par contre, dans les galaxies plus classiques, comme une elliptique ou une spirale, on ne sait pas si elles ont deux noyaux ou pas. Est-ce qu'elles ont deux trous noirs, sachant qu'on n'arrive pas à résoudre le trou noir, deux trous noirs très rapprochés, je ne suis pas sûre qu'on sache le détecter pour le moment. Mais en tout cas, on est intéressé.
Il y a sûrement des théoriciens
Ah,
qui
sûrement.
calculent quel est le rayonnement de deux trous noirs voisins.
Oui, ça c'est prévu. En fait, il y a je pense dans les nouvelles générations d'instruments, c'est des choses qui sont prévues d'essayer de les détecter.
Alors, ensuite, on te demande si les fusions ont un effet sur la formation d'étoiles. Les fusions de galaxies ont un effet sur la formation d'étoiles.
Oui. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, en fait, un petit peu ce qu'on voyait dans les simulations, mais c'est quelque chose qui est très très débattu. Si on reprend, bah, en fait, on peut même revenir au début. En fait, sur ma première figure, là, en fait, donc vous voyez qu'on a un pic de formation stellaire il y a 10 milliards d'années. Et donc, on pensait qu'à cette époque, il y avait beaucoup de galaxies un peu extrêmes, parce qu'elles sont très riches en gaz, qui formaient beaucoup de formations d'étoiles, donc qui étaient quasiment au-dessus de ce que j'ai appelé la séquence principale, donc qui étaient vraiment ce qu'on appelle des galaxies à flamber de formations d'étoiles. Et ces galaxies-là, en général, on pense que les plus extrêmes, qu'elles sont déclenchées par des fusions majeures de galaxies où les deux galaxies ont la même masse. Or, en fait, les études actuelles montrent que dans ce pic de formation stellaire, seulement 10% des galaxies sont des galaxies à flamber d'étoiles et donc des fusions majeures. Donc, toute la question, c'est 90% des autres galaxies n'ont pas l'air très très perturbés. Donc la question se pose si on a des. Quand on voit le scénario de formation hiérarchique auquel on croit, parce que ça reproduit beaucoup d'observations, on pense que, par exemple, les fusions mineures sont probablement importantes. Mais ça augmente la formation stellaire d'un petit pourcentage. Donc c'est pas forcément énorme. Les fusions majeures comme celles que je vous ai montrées, elles sont très spectaculaires. Mais celles-là, il y en a très très peu. Il y en a quelques pourcents et c'est pas ça qui. Enfin, dans l'univers local, il y en avait 10% il y a 10 milliards d'années, mais aujourd'hui, il y en a très peu, il y en a quelques pourcents. Et donc, en fait, le débat, c'est de savoir est-ce que c'est des fusions mineures ou est-ce qu'on a de l'accrétion de gaz dans les filaments, sachant que la distinction entre fusion mineure et accrétion est peut-être un peu difficile parce que, en général, quand on dit accrétion, c'est souvent ça, on sous-entend que ça se passe dans le plomb du disque. Alors qu'en fait, il y a peut-être une ambiguïté que de l'accrétion, ça pourrait être aussi des fusions mineures. Donc, bah voilà, c'est un peu le genre de questions auxquelles on cherche à répondre. Donc, en fait, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur une hypothèse, sur l'autre. Et tout le monde ne converge pas encore dans le même sens parce qu'il y a différents biais en fonction des observations, des choix méthodologiques qui sont faits, etc.
Alors, les simulations que tu as montrées semblent avoir eu beaucoup de succès. Tout le monde les a trouvées très belles. Et on me demande aussi si les étoiles, s'il y a des étoiles éjectées dans l'espace par les fusions de galaxies, et que deviennent ces étoiles?
Bah, c'est celle que je vous ai montrée. Et elles sont là, en fait, ces étoiles. Donc, en fait, vous avez typiquement, on prend ce qu'on connaît mieux, c'est ce qui est prêt. Il y en a aussi des structures comme ça autour de la Voie lactée, mais comme on est dedans, ce n'est pas facile à détecter. Donc ici, vous avez une galaxie donc, de notre groupe local qui est proche. Et donc là, ce qu'on a détecté, c'est des étoiles qui sont très très loin de la galaxie. Donc vraiment à l'extérieur. Donc c'est des étoiles qui se sont perdues dans l'interaction. Donc dans les interactions, il peut y avoir, quand on voit dans les simulations, il y a plein de choses qui partent. Il y a du gaz, mais il peut y avoir des étoiles. Il peut y avoir du gaz aussi qui forme des étoiles à l'extérieur de la galaxie. Donc les étoiles jeunes, elles vont mourir jeunes. Enfin les étoiles massives, pardon. Les étoiles jeunes massives, elles ne vivent pas longtemps. Donc elles vont exploser en supernova et émettre leur gaz dans le milieu intergalactique. Et puis les étoiles plus petites qui vivent très longtemps, ça reste des étoiles rouges. Et là, par exemple, ils ont détecté, parce que c'était plus facile, des géantes rouges. Donc elles restent autour. C'est des étoiles qui sont un peu perdues, quoi. Mais bon, c'est challenging de les détecter. On arrive à les détecter comme ça, avec des efforts observationnels très très intenses. Sur des galaxies plus lointaines, on n'arrive pas à voir des étoiles qui sont dans l'espace intergalactique. Mais bon, ça peut être aussi une partie des baryons noirs que l'on ne voit pas. C'est possible qu'on ait... pour le moment, là, ce qu'on estime, c'est qu'en quantité, ce n'est pas ça qui domine la masse des baryons noirs, mais on a quand même vu au niveau du gaz qu'il se passe... Qu'il y en a beaucoup qui sont expulsés, mais peut-être qu'on sous-estime un peu les étoiles expulsées aussi.
Alors, est-ce qu'il existe des galaxies proches sans trou noir central?
Oui, il y a des galaxies, alors je ne me souviens plus de leur petit nom. Donc, en fait, y a un certain nombre de galaxies qui n'en ont pas. Donc ça pose toute la problématique de la formation des trous noirs centraux. Donc en fait, c'est un peu la poule et l'œuf. Donc par contre, ces galaxies qui n'ont pas de trous noirs, elles ont des amas stellaires en leur centre. Et donc ça pose la question de l'origine de ces trous noirs. Donc une des possibilités, et qui est probable, c'est que... comme le centre de la galaxie, c'est le puits du potentiel, donc ça attire ce qu'il y a autour. Donc en fait, souvent il y a des amas qui tombent au centre de la galaxie. Et quand vous avez un amas stellaire, vous pouvez avoir, si vous avez des étoiles très massives, ces étoiles vont finir en trou noir stellaire. Et donc si vous avez un amas d'étoiles, vous pouvez avoir des fusions de trous noirs stellaires, et ça, on en a détecté. Donc ça aurait pu être le noyau des trous noirs qu'on a dans les galaxies que l'on observe.
Merci. Bon, j'essaye de limiter aux questions qui sont vraiment en lien avec ce que tu as dit, parce que sinon, il y en a beaucoup trop. Alors, est-ce qu'on s'attend à ce que le nombre de collisions de galaxies diminue avec le temps?
Ça devrait, oui. C'est ce qu'on observe. Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc au pic de formation d'étoiles, on pense qu'il y avait typiquement 10% de fusion majeure. Aujourd'hui, je vais vous dire une bêtise, mais c'est plutôt de l'ordre du pourcent. Donc il y en a beaucoup moins que ce qui a dû y avoir.
Et puis une toute dernière question peut-être. Enfin, il y a des questions liées plus à la dynamique, donc je ne sais pas trop si je les pose. en particulier sur le rôle. Alors, il y a le. Quel est le rôle de l'anisotropie des vitesses dans l'aplatissement des galaxies elliptiques? J'imagine qu'il voulait plutôt dire des galaxies spirales, non? Parce que les galaxies elliptiques, elles ne sont pas tellement aplaties.
Je sais pas,
Là.
l'anisotropie des vitesses. Ben, disons la différence que je peux répondre, je ne sais pas si ça répond à la question. La différence principale entre une galaxie elliptique et une galaxie spirale, qui explique la différence de morphologie, c'est que la galaxie spirale a du gaz. Et le gaz est dissipatif, donc en fait, il va perdre de la chaleur et il va s'effondrer comme une crêpe dans un disque. Et donc ensuite, une fois qu'il est dans un disque, eh ben, il va se condenser, et les étoiles vont se former, et donc ça va rester plus ou moins dans un plan et former la structure spirale. Quand vous avez une structure elliptique, ben, en fait, il n'y a plus de gaz, donc il n'y a plus de raison que ça s'aplatisse dans un disque. Et donc, effectivement, la vitesse de dispersion va maintenir la structure elliptique.
Bon, et puis une toute dernière question, où en est la théorie monde?
Ah.
Je ne pense pas que tu travailles dessus, mais
Non, bah, c'est une
des
très
gens au LERMA
jolie.
qui y travaillent.
Oui, j'ai des collègues qui travaillent dessus. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la théorie monde. La théorie monde. A pour ambition de. En fait, on a le problème de la matière noire qui est dans la simulation que je vous ai montrée au début. C'était les particules rouges. Donc, en fait, on voyait qu'en fait, c'est ça qui domine la masse des galaxies. Et on en a besoin, entre guillemets, parce que sinon, on n'arrive pas à reproduire, on n'arrive pas à faire les galaxies aujourd'hui. Le problème, c'est que cette matière noire, ben, au début, on se disait que c'était des baryons cachés. On n'a pas trouvé. En plus, il en faut plus. On a pensé que c'était des particules supersymétriques. On a cherché au LHC, au CERN. On a exclu toutes les particules supersymétriques. Enfin bon, ça fait depuis, je sais pas, les années quasiment 70 qu'on a observé qu'il y avait de la matière noire. Voire même avant à l'échelle des amas. Et en fait, on n'a aucune idée aujourd'hui quelle est la nature de cette matière noire. On sait juste que c'est une matière qui n'interagit pas avec la matière visible, matière baryonique, sinon on l'aurait détectée. Mais bon, c'est quand même un petit peu gênant de penser qu'on a une grande partie de la masse qu'on a besoin de mettre dans les simulations pour reproduire nos observations, qui ne sont pas du tout, dont on ne sait pas du tout quelle est la nature. Donc, la théorie monde a proposé donc une des observables comment dire, qui a été étudiée en long, en large et en travers depuis les années 70, c'est que toutes les galaxies donc qu'on voit, elles ont des courbes de rotation plates. C'est-à-dire que si on trace leur vitesse en fonction de leur rayon, la courbe de rotation dans les parties extérieures est plate. Or, s'il n'y avait pas de matière noire, on s'attendrait à ce qu'elle décroisse. Et ça, c'est une constante qu'on observe dans les galaxies, et donc pour lesquelles on associe de la matière noire. La théorie monde a pour ambition d'essayer de reproduire les courbes de rotation et un certain nombre de phénomènes, notamment de fusion. Sans matière noire. Donc, en supposant. Leur idée est que, à l'échelle des galaxies, donc une galaxie, ça fait 20 kilos par sec, typiquement 7000 années-lumière. Donc, on n'y est jamais allé, on n'ira jamais. À ces échelles-là, peut-être que la loi de la gravité n'est pas bonne. Et donc, en fait, ils ont modifié la loi de la gravité pour expliquer les courbes de rotation des galaxies. Et donc, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont essayé de voir jusqu'où on pouvait aller avec cette théorie. Et ils ont des résultats assez prometteurs globalement. Alors, il y a les défenseurs, les gens pour, les gens contre. mais ils arrivent à reproduire un certain nombre de fusions de galaxies, de reproduire les observations. Donc, je dirais que le débat est encore ouvert.
Mais pour moi qui travaille sur les amas de galaxies, je ne suis pas d'accord parce qu'on a essayé, nous puis d'autres, d'appliquer MONDE à la dynamique des amas de galaxies et effectivement, on se débarrasse d'une partie de la matière noire, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de masse sous forme de masse qui n'émet pas de lumière, mais on en a quand même besoin. Donc avec MONDE tout seul, on arrive à rendre compte des courbes de rotation des galaxies spirales, mais pas du tout, enfin, pas complètement, des propriétés dynamiques des amas de galaxies. Alors, bon, voilà.
Manque peut-être quelque
C'est
chose,
un
on
peu
a trouvé de
dommage.
l'énergie noire, il y aura peut-être encore quelque chose.
Oui, oh ben, de toute façon, on est très loin d'avoir tout compris, hein. Heureusement qu'il y a encore du travail pour
Voilà, donc.
les générations futures, hein. Il y a encore beaucoup de travail pour bien comprendre notre univers. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là parce que voilà, il y a encore beaucoup de questions, mais qui concernent davantage les trous noirs et la cosmologie. Et donc, ce sera pour une conférence à venir. Donc, rendez-vous le 2 mars avec Hervé Le Treut. Et puis, merci beaucoup, Anne-Laure, pour cette jolie conférence qui a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de merci et de bravo.
D'accord. Bon,
Et
bah
bonne
merci.
soirée à toutes et à tous.
Bonsoir.